RFI, grand reportage. Chantal Leroux.
Chaque année, ils sont des milliers de juifs orthodoxes du monde entier à converger vers la ville ukrainienne d'Ouman pour y célébrer Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Un pèlerinage oublié pendant l'époque soviétique, mais qui a repris depuis le début des années 90 et attire désormais près de 25 000 personnes, ce qui n'est pas sans créer des tensions et des incompréhensions dans un pays, l'Ukraine, et une ville, Ouman, qui n'ont pas encore réglé leur compte avec leur passé juif. Les étranges pèlerins d'Ouman, c'est un grand reportage de Camille Magnard.
Rabbi Nachman a dit « Venez chez moi à Rosh Hashanah ». Dieu m'a donné ça en don, et moi, parce qu'à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. Alors, jugement, bon, c'est bien d'avoir des avocats. Alors, Rabbi Nachman dit « Venez, moi je vais m'occuper de vous ». Alors, quelqu'un dit « Mais si je ne sais rien, si je ne sais pas lire, je ne sais pas prier ». Tu viens, tu es là, tu parles avec ta langue. Les mots que tu dis, c'est bon.
Ces deux jours-là, c'est la coutume de venir prier sur cet endroit, la tombe de Rabbi Nachman Mibreslev, qui a promis énormément de choses. Si lui qui vient prier le jour de l'an sur sa tombe, c'est d'exaucer toutes ses prières qu'il prie, le sauver s'il va mériter l'enfer, de le prendre de ses cheveux, de ses péotes, et de le sortir de l'enfer et de l'amener au paradis. Voilà les promesses qu'il a dit. Et puis surtout, c'est lui qui lit une prière spéciale que lui l'a formée, cette prière sur sa tombe, eh ben, il est promis qu'il aura une année, une bonne année douce.
Et on vient aussi avec des idérata particuliers, avec des choses à demander à Rabbi Nachman, vous avez déjà une idée?
Si, bien sûr. Vous savez qu'ici, on va dire la moitié, ou plus que la moitié, j'estime que c'est des gens célibataires. Et aujourd'hui, bien sûr, comme tout le monde, dans le monde entier, chaque célibataire demande d'avoir le bonheur de trouver sa moitié. Alors on espère que cette année, on va bien prier pour moi et pour beaucoup de mes amis. J'ai une bonne liste des amis célibataires, pour la santé, pour la réussite dans le business, dans le travail, etc. etc. J'espère que tous nos prières, si Dieu veut, seront exaucées, bien sûr. Et on le croit.
Combien sont-ils vraiment? 20 000, 25 000, impossible de le dire. Les pèlerins juifs d'Ouman, il en vient de partout, d'Israël bien sûr, des États-Unis mais aussi de France, comme Raïm, tous ici pour commémorer la promesse du tzaddik, du juste, Rabbi Nachman, un grand penseur de la religion juive qui s'est fait enterrer ici, à Ouman, il y a 200 ans. Des milliers d'hommes, des grands-pères aux jeunes garçons, souvent reconnaissables à leur tenue, à leur coiffure ou à leur chapeau, caractéristique des juifs orthodoxes, et la rue Pouchkina, petit quartier tranquille de logement soviétique, se transforme une fois de plus en un tonitruant quartier juif, et ce, pendant les trois jours que durera Rosh Hashanah, le nouvel an juif.
Maintenant, si vous voulez, c'est une préparation à la fête. La fête, c'est le début de l'année pour nous.
Patrick Elbaz, français d'origine, est venu d'Israël, où il vit désormais.
On va prier deux jours de suite. C'est des prières très intenses qui vont durer toute la journée, pratiquement. Et après, donc, ça sera une explosion de joie. Déjà ici, on entend autour de nous de la musique. C'est aussi la fête, ce pèlerinage. Il y a aussi un précepte de gaieté qui est donné par Rabbi Nachman.
Le message principal de Rabbi Nachman, c'est la joie. La joie, c'est-à-dire d'être heureux, de se sentir bien dans sa peau.
C'est aussi pour ça que tant de gens viennent ici, à Ouman.
Exactement, c'est-à-dire tout le monde se sent inclus, tout le monde se sent concerné. Moi, je viens depuis les années 90, donc après que se soit ouvert la ville de Ouman. Maintenant, moi, personnellement, je suis venu jusqu'en 84 avec un ami. Donc les Russes, à l'époque, ils étaient très suspects sur tout étranger. Donc à Kiev, on a pris un taxi pirate qui nous a amené. On a mis, en fait, il faut 3 heures pour venir, on a mis 17 heures. Et finalement, on est arrivé à 3 heures du matin. Maintenant, à l'époque, le tombeau de Rabbi Nachman était dans une petite villa sur une dalle de béton. À l'époque, il y avait une dame aussi qui habitait la maison. Elle voulait absolument que personne ne rentre chez elle.
Donc on est venu à 3h du matin, on est arrivé et donc la dame était dehors, comme si elle sentait en quelque sorte que quelqu'un allait rentrer chez elle. Donc on a attendu quelques minutes, on a vu que c'était pas possible, alors on a ouvert le portail, il y avait un petit portail, on a ouvert le portail tout doucement, on a rampé comme à l'armée, parce que c'était derrière le jardin, donc on a rampé, on a dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les 10 psaumes de David Ameler, du roi David. Donc on a dit ces 10 psaumes-là, on a donné une pièce à la charité, comme il le demande, et quelques prières donc après. Et après on est reparti, 3/4 d'heure après, en rampant. Bien sûr, quelques minutes après qu'on soit rentré dans notre chambre, on a été convoqué par le KGB. Moi, ce que je vois aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de penser que ça allait arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire de voir autant de gens. Bien que Rabbi Nachman l'avait prévu déjà. Il avait dit, il viendra un temps, il y aura devant mon tombeau des policiers pour garder le tombeau. Il avait dit 200 ans avant.
Cette année, les pèlerins sont sans doute au moins 25 000 et plus de 1500 policiers ukrainiens sont mobilisés pour sécuriser tout un quartier, celui de la rue Pushkina et du mausolée de Rabbi Nachman, le véritable aimant qui attire tous les pèlerins.
Le principe de Ouman, en fait, c'est de réunir toutes les communautés juives du monde entier. Francophones, séfarades, ashkénazes, tous les juifs du monde entier se réunissent ici à l'unisson et laissent de côté toutes leurs différences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre un juif ashkénaze polonais et un juif témani du fervent du Yémen, il y a autant de différences qu'entre, je sais pas, ils sont très très différents. Mais malgré tout, ils sont juifs et ce qui les rassemble, c'est qu'ils sont juifs et qu'ils ont un même Sefer Torah, le même code d'éthique. Et en fait, depuis des années, il y a des petites frictions entre toutes les communautés. Et ici, tout le monde se réunit à l'unisson. Toutes les communautés, tous les juifs du monde sont d'accord pour dire que Rabbi Nachman est le seul qui réunisse tout le monde. Et en plus, il est mort jeune. Il faut savoir qu'il est mort à 38 ans. Après nous avoir légué des enseignements qui aujourd'hui sont encore vrais et véridiques. Et voilà.
Comme par exemple, interrogation orale.
Comme Liot Vesimchat Tamid, ce qui veut dire d'être toujours joyeux, par exemple.
Aime ton prochain comme soi.
Comme toi-même.
Sois toujours heureux dans la Sifra et dans la Torah.
Même dans la mauvaise action d'une personne, cherche toujours le côté positif.
Pierre H. est venu de Strasbourg avec son gendre. C'est son premier Rosh Hashanah à Ouman.
Quand on regarde ce truc, je pense que les Juifs sont vraiment fous. Et j'en suis un, mais je pense qu'ils sont fous.
C'est une découverte pour vous ?
Ça fait longtemps que je le dis, mais quand j'arrive dans un endroit comme ça où je vois un truc où tout le monde se fout un peu du côté matériel complet, mais on vient juste pour se regrouper, je trouve ça hallucinant, quoi. Je trouve ça hallucinant. Notamment Rosh Hashanah, c'est quand même c'est une fête familiale, c'est la nouvelle année. C'est une fête familiale qui est extrêmement importante. Et si vous avez remarqué, il n'y a que des hommes. Donc tous les hommes laissent leur famille, puisqu'ils sont tous a priori mariés avec des enfants, pour se retrouver dans un endroit pour un pèlerinage, pour être dans des conditions qui sont des conditions quand même très difficiles. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé les appartements, dans quoi dorment où dorment les gens, c'est vraiment du squat, quoi. Donc il y a comme ça une émulation à se retrouver et c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant.
Et justement, les femmes, elles sont restées, elles fêtent Rosh Hashanah toutes seules à la maison.
Voilà, exactement. Elles fêtent Rosh Hashanah toutes seules à la maison, elles s'organisent. Pour ma famille, c'est la première fois. J'ai quand même une femme, 4 filles, dont une mariée avec lui, là. C'est la première fois que je les laisse à une fête comme celle-là, quoi.
Quand vous leur avez dit ça, elles n'ont pas trop mal pris ?
Elles m'ont poussé, elles m'ont dit « il faut le faire ». Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais...
Non, c'est à faire, c'est à voir. Au moins une fois, il faut le voir, il faut essayer, quoi. Ah,
mais une fois, et puis après on revient.
Qu'est-ce qui paraît ?
Mais après, c'est là où elle regrette de nous avoir envoyé une fois.
Non, non, c'est pas vrai.
Pendant les 3 jours que durera Rosh Hashanah, les pèlerins devront remplir certains préceptes. La veille du nouvel an, tous se réunissent autour du mausolée de Rabbi Nachman, à même la rue, pour lire les 10 psaumes du roi David. Puis ce sont les moments de prière à la synagogue ou sur la tombe du tzaddik, les moments de fête aussi ensemble, dans les rues ou en famille, pour les repas et le repos.
Give me this, huh?
Le temps du pèlerinage, les Juifs prennent possession de tout le quartier de la rue Pouchkina. Tous les logements disponibles dans un rayon de 500 mètres autour du mausolée se vident de leurs habitants ukrainiens qui les louent à prix d'or aux pèlerins. Le quartier est fermé par des barrières et les contrôles de policiers ne laissent passer que les pèlerins, les habitants du quartier ou ceux qui tiennent l'une des nombreuses petites échoppes le long de la rue. Pèlerins et Ukrainiens, deux mondes qui vont cohabiter sans se mélanger pendant ces quelques jours, entre beaucoup de méconnaissance, d'incompréhension et un embarrassant passif historique.
Je dirais, une fois que nous avons payé, ça se passe très bien, il n'y a jamais de problème. Les relations sont bonnes.
Patrick Bendayan, pèlerin français venu en famille d'Aix-les-Bains.
Bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de mélange. Ils sont contents, ils ont gagné un peu d'argent. On va acheter. Bon, il y a des abus dans les prix, mais les relations, ça se passe bien. N'oublions pas qu'on est quand même dans un pays qui est très, très, très mal. Surtout le sud de l'Ukraine. Vous savez, le sud de l'Ukraine, c'est l'ancienne Pologne du XVIIIe siècle aussi. Toute cette partie donc de la Pologne et le sud de l'Ukraine ont été très marquées par des crimes. À Ouman, nous avons en bas, tout en bas, si vous descendez où il y a Rabbi Nachman, on descend encore un peu et après il y a un pont. Il y a eu 20 000 personnes qui ont été tuées pendant la guerre ici, à cet endroit-là. On sait qu'en Ukraine, on peut trouver des ossements à même le sol. Et donc, on découvre qu'il y a eu sûrement une complicité de la population. C'était très antisémite. Très, très antisémite, toute cette région-là. Et donc, les descendants de ces personnes ont souvent des parents qui ont des mains pleines de sang. Ça passe.
C'est quelque chose que les Juifs qui arrivent ici ont en tête aussi.
Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. On le sait tous. On le sait tous. Nous, on vient parce que Rabbi Nachman est ici et on vient le pèlerinage. On va oublier.
Serhii Vassiliev est historien spécialisé dans l'histoire d'Ouman.
En 1913, vivaient à Ouman environ 60 000 personnes, dont près des deux tiers étaient des juifs. Ils possédaient dans la ville un nombre important de lieux de prière, de synagogues, et ils finançaient la construction de nombreux bâtiments. Et ainsi de suite jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale et à l'occupation allemande. Les juifs représentaient alors plus de la moitié de la population. Mais pendant l'occupation, conformément aux ordres de Hitler, toute la population juive restante a été exterminée. Sans doute autour de 12 000 personnes qui ont été exécutées à l'endroit que l'on nomme Soukoumirou, un peu à l'extérieur de la ville. Tout ça a eu lieu entre le début du mois d'août 41 et le 9 mars 44, quand la ville a été libérée. Dans cette période de l'occupation fasciste, quasiment toute la population juive a été exterminée à Ouman, et on peut dire qu'en pratique, après 44, les juifs avaient disparu de la ville.
Les habitants d'Ouman, eux, ont bien souvent oublié cette partie de leur histoire. 65 ans plus tard, ils voient débarquer ces milliers d'hommes avec leurs costumes étranges et leurs mœurs intrigantes, d'un œil suspicieux, même si le pèlerinage rapporte beaucoup à la ville. Les pèlerins sortent rarement de leur quartier fermé, et les seuls Ukrainiens qu'ils croisent sont ceux qui essayent de leur vendre quelques babioles ou leur louent un logement pour 4 jours. Zina, 76 ans, a loué son 2 pièces à 7 hommes venus d'Israël, dont elle tirera 1 500 $. Elle passe ses journées en bas de l'immeuble à observer l'étrange manège qui se joue devant ses yeux.
Oui, j'habite ici au numéro 10 de la rue Pouchkina. Je reste ici parce que j'ai loué mon appartement à des juifs hassidiques et je dois surveiller mon appartement. Je regarde les allées et venues. Je m'assure qu'il n'y a pas de dégradation ou de locataires qui se comportent mal. On entend beaucoup d'histoires, vous savez. Il y en a qui ne sont pas bien éduqués. Ils jettent leurs poubelles n'importe où. Ils boivent, ils abîment les ascenseurs. On est obligé de surveiller. Ce sont comme même nos appartements. J'ai des voisins qui ont loué et qui vont dormir dans leur garage ou dans leur cave le temps du pèlerinage. Mais on n'a pas le choix. On fait ça parce que nos salaires et nos retraites sont trop faibles.
Au 5 de la rue Pushkina, nous poussons la porte de l'Eibel Burger. Ce juif new-yorkais de 81 ans a été l'un des pionniers à relancer le pèlerinage à Ouman à la chute de l'URSS. Depuis quelques années, il a acheté un appartement ici et y vit plus de 6 mois par an. Son but, réinstaller à Ouman une communauté juive orthodoxe pour redonner aux juifs la place qu'ils ont occupée ici pendant des siècles, jusqu'à la Shoah par balle. Une manière aussi de changer les regards et d'apaiser les tensions entre les Ukrainiens d'Ouman et leurs étranges visiteurs.
C'est vrai que parfois les pèlerins peuvent paraître méprisants, supérieurs face aux Ukrainiens. Ils arrivent ici pour 4 jours, ils ne font qu'aller et venir, alors ils se disent qu'importe la façon dont je me comporte ici. Vous voyez, ce n'est pas comme cela qu'on apprend à connaître l'autre. Et c'est quand on commence à vivre ensemble, à se connaître, qu'on se rend compte que l'autre est un être humain, comme nous, pas un animal, et qu'il n'est pas là pour nous voler notre dernier sou. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes un juif orthodoxe que vous êtes une bonne personne, et ce n'est pas parce que vous êtes ukrainien que vous avez tué mes ancêtres. Donc oui, ça marche dans les deux sens.
Les étranges pèlerins juifs d'Ouman, un reportage de Camille Magnard, réalisation Marc Minatel.
Voilà, c'était le grand reportage signé Camille Magnard, notre correspondant en Ukraine. Camille, que l'on retrouve en ligne de Kiev. Camille, bonjour.
Bonjour.
Dans votre reportage, on entend une expression un peu surprenante, Shoah par balle. Que recouvre exactement ce terme quand on l'emploie en Ukraine ?
Eh bien, ce terme, la Shoah par balle, on l'emploie depuis quelques années pour désigner l'extermination des Juifs d'Europe de l'Est et d'Ukraine en particulier pendant l'occupation allemande ici entre 1941 et 1944. On dit Shoah par balle en opposition à la Shoah que l'on connaît déjà bien, celle des camps de la mort et des chambres à gaz. En Ukraine, la centaine de milliers de Juifs qui vivaient là ont été massivement exécutés sur place dans les villes et dans les villages par l'armée nazie, mais aussi, et c'est bien là toute la question, par une collaboration plus ou moins importante des populations locales. À Ouman, par exemple, où on a fait ce reportage, on trouve en particulier un site où l'on a rassemblé et exécuté à la chaîne d'une balle dans la tête plus de 10 000 juifs. Et à Kiev, le lieu le plus connu, c'est le ravin de Babi Yar, où là, ce sont plus de 100 000 civils ukrainiens, presque tous des juifs, qui sont morts.
Alors, quelle place occupe cet épisode dans la mémoire de l'Ukraine ? Quel rapport l'Ukraine d'aujourd'hui entretient-elle avec cette page de son histoire ?
Mais écoutez, c'était assez frappant pendant le reportage à Ouman, quand j'en parlais avec les habitants de la ville. Les Ukrainiens d'aujourd'hui connaissent très mal toute cette période de la Shoah par balle, une période qui n'a pas du tout été étudiée et enseignée sous l'URSS et qui n'a, à l'époque, pas fait l'objet d'un véritable travail de mémoire collective comme dans les pays comme la France. C'est seulement depuis quelques années, sur l'initiative de personnes isolées ou de chercheurs venus de l'Ouest, qu'on a commencé à exhumer les fosses communes et à faire sortir les histoires et les témoignages de cette Shoah par balle. Mais le silence et une certaine forme d'ignorance ou même de déni restent très forts. D'ailleurs, quand j'ai demandé à Zina, l'Ukrainienne que l'on entend à la fin du reportage, pourquoi les Juifs d'Ouman avaient disparu, elle m'a répondu qu'ils étaient partis, exilés, mais pas du tout qu'ils avaient été exterminés par milliers à quelques kilomètres de chez elle. Et surtout, la question centrale, on l'a dit, le tabou qui reste, c'est celui de la participation de la population ukrainienne dans ces massacres. Et là, la question est toujours très difficile à poser, même 65 ans plus tard. Et c'est aussi ça, en grande partie, qui empêche une réconciliation véritable entre juifs et ukrainiens.
Alors avec ce pèlerinage, on l'a entendu, des dizaines de milliers de juifs reviennent sur place, dans cette ville d'Ouman, où ne vit plus qu'une cinquantaine de familles juives environ. Alors est-ce que cet événement, chaque année, permet d'avancer sur la voie de la réconciliation entre les deux communautés ?
On pourrait le croire, mais si vous voulez, mon impression après ce reportage, moi, je vous dirais plutôt que malheureusement, c'est l'inverse qui se passe. Le pèlerinage, c'est quelque chose de très intense, dans un temps très réduit, 4 jours, avec énormément de monde, de gens du monde entier qui arrivent dans un espace limité, délimité, avec une ségrégation très présente, et surtout un choc des cultures très fort, puisque les Ukrainiens ne connaissent plus la culture juive, et que les juifs qui arrivent ici sont les plus orthodoxes, les plus hauts en couleur, on peut dire. Donc chacun arrive ici, on l'a entendu dans le reportage, avec ses préjugés. Les Ukrainiens sont pauvres, antisémites, vénaux pour les juifs, et puis les pèlerins juifs sont eux sales, arrogants, mal élevés pour les Ukrainiens, alors forcément tout ça ne facilite pas le dialogue. Ajoutez à cela les questions d'argent qui sont très présentes, et vous voyez que ce pèlerinage, pour l'heure en tout cas, entretient les malentendus plutôt qu'il ne favorise le rapprochement.
Merci Camille Magnard, on retrouve votre grand reportage sur le site internet de RFI, www.rfi.fr.